le 16. Sortie cinéma.
Vous écoutez le balado de l'IPS, l'émission toute désignée pour en apprendre plus sur les enjeux de santé, le développement du médicament ou démystifier la pharmacologie. Bienvenue à ce quatrième épisode de Balado. Bienvenue en studio. Ce matin, on parle du système cardiovasculaire. Je suis avec le professeur Pedro Dorléans-Just de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke. Bonjour. Et son ancienne étudiante, candidate au postdoctorat, docteur en pharmacologie, Catherine Lapointe, ouais. Un peu tout ça.
Exact.
Une femme bien accomplie qui est avec nous aussi ce matin. Je vais vous dire, bien honnêtement, ce matin, j'ai commencé avec presque une crise cardiaque. Donc, ça, c'est parfait avec le sujet d'aujourd'hui. Derrière chez moi, c'est rendu Bagdad. Il y a des explosions tôt le matin. Donc, je me suis réveillée au coup d'une explosion. Puis, j'ai pensé à vous en manquant de faire une crise cardiaque. Donc, ce matin, on parle de la thématique cardiovasculaire, une thématique qui vous intéresse tous les deux beaucoup dans votre laboratoire, Pedro, depuis un bon moment déjà. Donc, t'es quand même une institution chez nous. Peut-être vous présenter brièvement, qu'est-ce que peut-être Pedro, si tu veux commencer à te présenter, dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes thématiques, tes intérêts de recherche?
D'abord, bonjour Véronique, bonjour. Merci de nous avoir invités, ça fait plaisir d'être avec toi ce matin ici. Initialement, je veux te dire, si jamais tu as une crise cardiaque, tu as un infarctus, je te conseille fortement d'aller voir ton médecin.
Oui.
Ça c'est... OK.
C'est un très bon point.
Ou aller à l'urgence, si tu sens. Alors, écoute, mon... C'est difficile de résumer 30-50 carrières en l'espace de 30 secondes.
Oh, je te donne une minute. Ouais, parce que 35 ans, c'est vrai que c'est court.
Je me suis toujours intéressé depuis 1979, quand je suis rentré à la faculté de médecine comme étudiant à l'époque. Je m'intéressais à une fine couche cellulaire qui tapisse tout l'intérieur de tous les vaisseaux sanguins, qui s'appelle l'endothélium. Et depuis ces 35 ans, je m'intéresse à tous les facteurs qui interagissent avec cette couche qui est super importante pour le contrôle de la pression artérielle et dans les processus inflammatoires et autres.
OK.
Alors maintenant, avec Catherine et Laurence, on s'est intéressé à des cellules qui agissent de l'autre côté du vaisseau, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur du vaisseau.
Donc, on est passé de l'intérieur à l'extérieur, finalement. Mais en 35 ans, c'est pas pire, quand même.
C'est la quadrature du cercle. Mais donc... Ça résume pas mal.
Mais je suis curieuse, moi, puis peut-être que tu vas pouvoir me répondre, probablement que tu vas pouvoir me répondre, c'est combien de kilomètres, mettons, ça? Tu sais, tu disais, tous nos vaisseaux dans le corps, ça correspond à combien de kilomètres pour les gens à la maison?
Si on prenait toutes les cellules endothéliales qu'on a dans le corps, on les mettait une à côté de l'autre, comme si c'était une couche unicellulaire, une seule monocouche, ça recouvrirait à peu près la moitié d'un terrain de tennis.
Oh, quand même!
Donc, c'est une superficie assez importante.
Fait que c'est pas des kilomètres, là.
Il y a plusieurs kilomètres de capillaires.
OK.
Mais en termes de kilomètres carrés, évidemment, c'est pas kilomètres carrés, mais c'est sûr que c'est très, très long. Si on enlevait tous les tissus, on gardait uniquement le vaisseau sanguin, on aurait encore le corps humain dans sa forme intacte, mis à part les cheveux. et les ongles.
Les cheveux et les ongles, OK, parfait. Parce que c'est vrai que c'est quand même un grand système. T'sais, on voit là, ma petite blague un peu douteuse ce matin qu'il y avait sur l'affiche, là, donc parler du cœur, ça lui fait une belle jambe, mais c'est parce que ce qu'on se rappelle, c'est que le cœur, ben, c'est la pompe hein, d'un système qui va des orteils jusqu'aux cheveux, presque, en fait, parce que même les cheveux sont nourris au niveau sanguin, tout ça. Donc, c'est quand même un système qui est très important parce qu'il n'y a rien qui se passe sans ce système-là. Je dirais même que c'est le système le plus important parce que même le cerveau, s'il n'est pas irrigué, il ne se passe rien. Donc, parce qu'on disait que le cerveau était plus important dans l'autre épisode, mais moi, je tendrais à dire que ce système-là est quand même important pour rester debout, finalement.
Tout à fait.
Puis la couche endothéliale, c'est ça? Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'elle est intéressante comme ça, cette couche-là?
Bien, c'est parce que, tu vois, c'est une très, très fine couche, très, très mince, et elle libère des facteurs, des hormones qui dilatent tous les vaisseaux et les contractent. Alors, cette couche cellulaire libère la substance la plus puissante contracte les vaisseaux sanguins et une autre substance la plus puissante à relaxer les vaisseaux sanguins. Donc, c'est comme la couche endothéliale, la première barrière en contact avec le sang. S'il y a des variations hormonales et elle interagit avec cette couche endothéliale, bien, elle peut avoir un impact majeur sur, par exemple, sur la pression artérielle. Je ne rentrais pas dans la résistance périphérique, mais je d'autres groupes de chercheurs à la faculté de médecine s'intéressent maintenant à l'endothélium à l'intérieur du muscle cardiaque, qu'on appelle l'endothélium endocardique, qui a aussi des propriétés identiques.
OK.
Similaires, je dirais. Donc, disons qu'il y a deux ou trois chercheurs qui ont obtenu un prix Nobel dans les années 80 pour cette découverte. Et je ne fais pas partie d'entre eux, malheureusement. Mais bon, on travaille toujours. Hein?
Oui, mais fellow de la British, ouais. C'était quand même cool, ça, l'année passée, il me semble. Ou l'année d'avant? Les années passent vraiment vite, on dirait que je ne vois plus. Mais c'est intéressant parce que c'est comme si c'était le réseau routier. Puis on veut évidemment que ce réseau routier-là de notre système cardiaque ne ressemble pas au réseau routier au Québec, idéalement, avec des nids de poules un peu partout. Puis,
au Sherbrooke, avec les ponts tout bouchés.
Exactement. Bien vu. Catherine, justement, tu es avec nous aussi. Catherine Lapointe, peux-tu nous parler un peu de toi, de ce que tes intérêts de recherche aussi, puis peut-être de ce que tu vises par après. Bref, nous faire un petit tour d'horizon.
En fait, moi, je suis avec Pedro, ça fait, je pense, 8 ou 9 ans. Là.
Wow!
ça fait un bout maintenant. Dans le fond, j'avais commencé mes premiers stages au baccalauréat en pharmacologie avec Pedro. Là. J'avais été recommandée par un mathématicien.
Un mathématicien?
Ouais, un très bon ami de Pedro. Okay. Je crois qu'ils jouent au soccer ensemble. Ou au football, là, comme on dit.
Au foot.
Donc, c'est ça. Puis, j'avais commencé mes stages avec lui. Puis ensuite, j'ai commencé la maîtrise aussi. Et à la base, c'était en sclérose en plaques. Donc, un sujet très différent d'aujourd'hui.
Oui, quand même. Hein?
Mais c'était quand même l'apport cardiovasculaire dans la maladie. Donc, on n'était quand même pas si loin.
OK.
Puis, pendant ma maîtrise, en fond, au départ, j'ai commencé un projet on the side, comme on dit, là, sur le côté. Puis, on a commencé à travailler sur la thrombose veineuse profonde, qui est vraiment une maladie cardiovasculaire qu'on va parler plus en détail tantôt. Là. Puis, avec ça, dans le fond, j'ai fait un passage accéléré pour le doctorat, toujours avec Pedro, évidemment. Puis, là, en ce moment, dans le fond, j'ai terminé depuis mars. Puis, j'ai fait de ma soutenance. Puis, là, je suis en train de décider mon choix de post-doctorat. Là, donc,
Oui, puis on parlait hier un peu de ça. Puis, je pense que tu veux rester dans la thématique cardiovasculaire. Oui. C'est quelque chose qui, toi, te passionne, de ce que je comprends?
Oui, depuis le départ, là, donc c'est pas pour rien que j'étais allée vers Pedro non plus, là, quand il m'avait recommandé Pedro, le chercheur mathématicien, c'est effectivement, ça m'intéressait depuis toujours, là, donc j'étais bien contente.
Puis là, tu veux, si je me trompe pas, c'est ça, tu veux continuer postdoctoral, tu cherches un sujet, mais est-ce que tu as une idée des intérêts qui pourraient t'allumer peut-être pour un postdoc?
Ben en ce moment, en fait, c'est sûr que j'ai comme deux offres. Là. J'ai pas fait mon choix encore. Okay. Mais tu sais, dans les deux cas, ça reste qu'on continue à travailler au niveau des thromboses, plus au niveau veineux, un peu comme j'ai fait pendant mon doctorat. Mais c'est vraiment avec des expertises différentes. Donc, tu sais, entre autres, un laboratoire, c'est plus au niveau de la glycoprotéomique. Donc, vraiment au niveau de petites molécules, des sucres complexes qui sont sur les plaquettes, qui est un composant, puis on rentre en détail, là. Un composant du sang, finalement. Donc, puis de l'autre côté, c'est vraiment pousser des modèles expérimentaux plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis avec les fameux CRISPR-Cas9 parler. Donc,
les ciseaux génétiques, si je crois.
Oui, exact.
Et je me posais la question, puis vous pouvez peut-être me répondre tous les deux. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à un sujet qui est gros comme une tête d'épingle pendant 35 ans, pendant 9 ans? Là. Qu'est-ce qui fait? Comment on reste motivé quand on travaille sur vraiment quelque chose de tout petit, là, finalement? Là, tout petit qui peut avoir un très grand impact, mais qui est comme vraiment ciblé. Là. Non, on n'est vraiment pas dans, comment dire, l'arborescence. Là. On est vraiment dans le très, très précis. Comment on fait? Moi, ça m'a toujours fasciné.
En fait, moi, je vais y aller en premier. Je pense que c'est le fait que même si on est dans un sujet précis, ça va toujours changer.
Okay.
On n'est jamais vraiment dans le même sujet. T'sais, comme Pedro disait tantôt, lui, il a commencé à l'intérieur des vaisseaux pour finir à l'extérieur. Donc, tu sais, même s'il est resté autour du même élément, ça reste qu'il l'a revu de différentes façons, puis il l'a un peu réinventé, si on peut dire. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant de la recherche, même si on est sur un sujet ciblé. Il y a toujours moyen de le réinventer, puis de l'observer d'une autre façon. Donc,
il y a plusieurs points de vue qu'on peut prendre,
exact.
Plusieurs points d'observation.
Oui.
C'est super intéressant. Puis là, ce matin, je voulais vous parler de quelque chose, parce que ces balados-là, sont faits pour la société. Puis je voulais qu'on parle un peu au niveau de la thématique cardiovasculaire. On en a discuté ensemble dans le laboratoire, Catherine. Puis on en avait déjà parlé ensemble aussi, Pedro, de mémoire. C'est au niveau de la thématique cardiovasculaire, comme dans beaucoup d'autres thématiques, mais peut-être plus encore, il y a des différences dans la symptomologie et dans le diagnostic des maladies, notamment l'AVC, l'infarctus du myocarde, mm-hmm. on en parlait hier. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de quelles sont ces différences-là de diagnostic, puis d'où ils viennent? Pourquoi une femme et un homme n'auront pas les mêmes symptômes dans le cas cardiovasculaire, par exemple? Qu'est-ce qui fait ces différences?
Peut-être je vais répondre. C'est sûr que je siège sur des comités au Institut canadien de la recherche en santé depuis quoi, près de 25 ans. Et la préoccupation de la recherche comparative homme-femme est maintenant omniprésente dans tous les projets de recherche. Je dirais depuis une dizaine d'années. C'est une préoccupation parce que la santé cardiovasculaire chez les femmes n'était pas forcément étudiée de façon aussi exhaustive que chez l'homme pour des raisons logistiques.
OK, comme logistique, dans quel sens?
Par exemple, quand on travaille en laboratoire, à moins qu'on soit un laboratoire spécialisé, par exemple, dans la reproduction ou par des maladies chez les femmes, on va avoir tendance à toujours utiliser des modèles expérimentaux animaux mâles parce qu'il y a moins de fluctuations hormonales. Ce qui permet justement de ne pas avoir de symptômes qui sont associés, par exemple, au cycle menstruel ou œstrogène et progestérone chez la femelle. Mais tout ça, ça a changé depuis à peu près une dizaine d'années, où maintenant, les instituts de la recherche en santé du Canada et la Fondation de maladies cœur du Canada exigent que tous les scientifiques qui déposent des projets justifient l'utilisation d'un seul sexe dans leurs modèles expérimentaux. Et ils doivent valider, ça doit être approuvé par les comités scientifiques qui regardent les projets. Donc, ça peut avoir un impact sur le taux de financement. Alors, c'est important et je pense que ça a changé la donne. Pourquoi? C'est qu'on s'est aperçu, par exemple, j'ai présidé la Fondation Maladies du cœur du Québec pendant une dizaine d'années, ça remonte déjà quelques années. Et déjà, on savait à l'époque que les femmes avant la ménopause était relativement cardio-protégée.
Oui, à cause du cycle, justement.
À cause du cycle, mais à cause surtout des hormones un petit peu œstrogènes et autres, qui avantagent, si tu veux, l'intégrité du système cardiovasculaire.
Il faut bien qu'il y ait un avantage à ça, hein? Enfin, c'est le fun, oui.
Mais à la ménopause, en revanche, la courbe de mortalité et de morbidité associée aux maladies cardiovasculaires rejoint celle des hommes du même âge. Et c'est très, très rapide.
C'est très logique aussi.
Ben oui, cette fenêtre-là, là.
Oui.
Alors là, bon, on rentre des aspects éthiques, des aspects d'endocrinologie. Est-ce que les femmes, par exemple, devraient prendre une hormonothérapie de remplacement pour éviter les maladies cardiovasculaires?
Il y a toutes
sortes
de
facteurs. Ouais. Il y a toutes sortes de complications. Donc, et c'est un sujet qui est très, très... aujourd'hui, je dirais que la recherche sur les deux sexes est nettement avantagée au niveau cardiovasculaire. En cancer, c'est évident à cause des types de cancers qui sont ciblés.
Oui, mais comme les cancers féminins, là, par exemple, les cancers. Malgré que les hommes peuvent en avoir dans une petite proportion, mais ovaires, utérus, tout ça.
Tout
donc,
à fait.
Même chose
tout
du côté de l'homme avec la prostate. Là, on a des cancers qui sont vraiment ciblés selon les organes qu'on a en notre possession. J'ai appris dernièrement que je n'avais pas de prostate. C'était vraiment un moment décisif dans ma vie. pardon. Donc, oui, ben merci pour ça, Pedro. Donc, on voit que dans. Pragmatiquement parlant, ça a longtemps été beaucoup sur des modèles masculins. Mm-hmm. Puis au niveau de la symptomatologie, j'avais entendu que AVC, souvent, les femmes passent un peu inaperçues. Même chose pour les crises, les infarctus du myocarde. Mm-hmm. On a le fameux ça élance dans le bras gauche, là, tu sais, là, pour les hommes, tout ça. Mais chez les femmes, ça se démontre autrement, hein, ces symptômes-là. Puis Catherine, on en parlait hier. Peux-tu peut-être refaire ce que tu m'as dit?
Oui. Dans le fond, selon le gouvernement du Canada, ce qui est rapporté, c'est que les femmes, souvent, vont avoir des symptômes jusqu'à plusieurs mois avant même de faire vraiment l'infarctus du myocarde. Là.
Okay.
Donc, ça va se traduire comme des symptômes qui peuvent masquer en réalité la maladie parce que ça va être de la fatigue extrême, de l'anxiété, des problèmes de digestion. Ça va être des symptômes banals, si on peut dire, là, comparé à la maladie qui s'en vient.
Ouais.
Puis... souvent, quand l'infarctus va vraiment se produire, à ce moment-là, ça va plutôt être une lourdeur au niveau de la poitrine, mais ça ne sera pas nécessairement les grosses douleurs que la plupart des hommes vont ressentir. Donc, c'est ce qui est rapporté. Là. C'est sûr que nous, ici, on n'est pas médecins.
Non,
donc
absolument.
On ne voit pas la pratique de tous les jours, mais c'est ce qui est rapporté par les gouvernements, entre autres, et la littérature. Puis, tu sais, c'est sûr que le fait que les symptômes semblent moins graves chez la femme, rendu à l'hôpital, ça peut entraîner peut-être des délais dans les traitements ou dans la prise en charge des patientes. Mm-hmm. Pourtant, malgré que les symptômes sont parfois moins graves, ça ne veut pas dire que la maladie est moins grave.
Pour autant, là.
Exact.
Parce que moi, j'ai participé, il y avait un jeu qui a été fait, l'escouade égalité, en fait. Puis, il y avait des cartes, justement, de faits saillants concernant là, les inégalités au niveau femmes-hommes, mm-hmm. tu sais. Puis, il y en avait une que c'était concernant l'AVC, puis ça disait justement, c'était comme un jeu des petits chevaux, là, tu sais, que t'avances, tu recules, tout ça, là. Puis ça disait, vous faites un AVC, vous n'êtes pas prise en charge, reculez de trois cases. Puis là, toutes les femmes ont fait quoi, tu sais, puis ça disait justement dans, puis même les hommes étaient comme, ben voyons, tu sais, mais c'est mm-hmm. vrai que les femmes, souvent, ça va passer plus inaperçu, mm-hmm. Puis ils vont même se faire envoyer à la maison, des fois, pour se faire dire mm-hmm. d'aller se reposer, là. Donc, mais, ouais. mais finalement, ils sont en train de faire un AVC. Alors, c'est
souvent,
important.
Souvent, ils vont garder des séquelles plus graves aussi, étant donné que la prise en charge de la patiente est moins rapide, donc ça peut occasionner aussi des conséquences à plus long terme.
Là. Non, et on parlait tantôt, Pedro, d'hormonothérapie pour contrer les effets cardio, pour les infarctus, tout ça, mais en même temps, de tout l'AVC aussi,
exact.
Les risques qui augmentent parce qu'on sait que l'hormonothérapie, c'est un des risques principaux de faire des caillots. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai appris que le caillot, ça peut être une insulte sur la route. Je roulais avec Sébastien Dion la semaine passée, puis il a traité un automobiliste devant lui de caillot, puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est comme une insulte, caillot. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment non pertinent, mais je voulais juste le mot caillot m'a ramené ça. Donc, ça pour dire qu'on voit qu'il y a des grandes différences entre les deux diagnostics. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, aux femmes? Parce que là, on parlait d'anxiété tantôt, on parlait d'agitation, de problèmes digestifs. Mais là, si on est déjà quelqu'un qui digère mal puis qui est anxieuse, on fait quoi, là, pour essayer de... Vous n'êtes pas médecin, mais comment on pourrait peut-être être attentif à des signes qui seraient préoccupants pour les femmes qui sont ménopausées ou tout ça?
En toute honnêteté, en toute transparence, je pense que mon premier conseil est toujours le même, allez voir votre médecin. Mm-hmm. Si, parce que moi, personnellement, je ne suis pas habilité à pouvoir donner des conseils à ce niveau-là. Alors, s'il y a des bases scientifiques, par exemple, associées à ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une différence homme-femme dans des maladies cardiovasculaires, et on peut cibler un mécanisme là, on est outillé pour répondre à certaines de ces questions.
Okay.
Mais c'est clair, par exemple, donner un conseil à quelqu'un, dire, bah, tu sais, je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? Voir peut-être, ou alors une super infirmière, ou alors mm-hmm. 911, ou alors...
811, si tu sais avoir la ligne, là, tu sais, oui, c'est ça.
C'est ça. Ouais, mais il y a des professionnels de la santé pour répondre à cette question. Elle est très, très pertinente, Véronique.
Oui, mais moi, pas médecin. Voilà. Non, c'est ça. Donc, peut-être d'être plus alerte, là, comme on disait, à des symptômes qui pourraient surgir. Par exemple, si vous vous sentez soudainement vraiment anxieuse, pour aucune raison, que ce n'est pas dans vos habitudes. Peut-être être plus attentive à ces genres de symptômes-là. Puis les femmes, peut-être vous intéresser à la littérature sur le sujet en médecine, d'aller voir justement qu'est-ce qu'il faut surveiller par rapport à l'infarctus du myocarde, qui est quand même assez fréquent après la ménopause, on en a parlé. Puis l'AVC aussi, qui est quand même une condition fréquente chez les femmes aussi. Merci beaucoup pour ça. Puis là, on va sauter au sujet d'intérêt. En ce moment, vous venez de pondre en début d'année un article merveilleux. Moi, j'ai vraiment trouvé votre sujet super intéressant.
C'est gentil, merci.
Qui explique d'ailleurs aussi le titre, parler du cœur, ça fait une belle jambe, parce qu'on parle de phlébite de profonde. Donc ça, les gens sont familiers avec ça à la maison. Les phlébites, c'est une condition qui est quand même fréquente, malheureusement. On en parlait beaucoup avec la vaccination. Parfois, il y a des risques de phlébite, tout ça, malheureusement. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de cet article-là que vous avez co-écrit avec Laurence Vincent aussi, qui n'est pas avec nous, malheureusement, aujourd'hui, dans votre laboratoire? Parlez-moi un petit peu de tout ça. Ça peut être Catherine qui commence, peut-être?
Catherine.
D'accord. Je pense qu'on va commencer par la prémisse de notre projet, en fait, là, pour pouvoir mieux expliquer aux gens qu'est-ce qu'on a fait, parce que sinon, c'est difficile à comprendre si on va tout de suite dans le vif du sujet. Mais dans le fond, nous, on a étudié la thrombose veineuse profonde.
Mm-hmm.
Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça peut s'appeler aussi une phlébite. Les gens savent un peu plus c'est quoi avec ce nom-là. Donc, c'est la formation d'un caillot dans une jambe la plupart du temps, mais ça peut aussi être dans une autre veine du corps humain, là, dans les bras ou autre. Mais c'est vraiment plus fréquent au niveau des jambes.
Est-ce que ça s'appelle phlébite dans le bras aussi?
Ça reste... en fait, le vrai nom, ça serait une thrombose veineuse profonde.
Okay.
Puis ça, c'est le nom générique pour peu importe la veine profonde du corps. Donc, si c'est dans le bras ou la jambe, ça a le même nom.
D'accord.
Oui. Mais phlébite, je ne sais pas si ce terme-là exactement... Parce qu'une phlébite, en fait, c'est un terme général qui pourrait aussi être utilisé à d'autres... vaisseaux du corps, là, comme les vaisseaux lymphatiques. Ou,
Parce que le HIIT, de mémoire, c'est l'inflammation. Donc, c'est comme une inflammation de flib, je ne sais pas c'est quoi. Mais j'essaie de disséquer les mots, mais je ne vois pas. Donc, bref, thrombose de la veine profonde.
Exact.
Vas-y, Catherine.
Puis, dans le fond, nous, on s'est intéressé à cette maladie-là. Puis, cette maladie-là, elle a déjà plusieurs traitements qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, on parle souvent d'anticoagulants. Puis ça, je suis persuadée que tout le monde qui nous écoute...
Madame!
Exactement. Est-ce quelqu'un dans leur famille qui en prenne, qui a une prescription? C'est très commun là, comme médicament. Puis, donc, comme tu as dit, il y a le Coumadin ou le nom générique qui est la warfarine. Il y a aussi le Xarelto, que peut-être plusieurs personnes prennent.
L'héparine, c'est ça?
L'héparine aussi. Ça, par contre, ça va plus être dans des populations très spécifiques. Okay. Parce que c'est des injections, là, donc on essaie de se tenir loin un peu plus des injections. Là.
Ça, c'est quand, justement, à l'hôpital, j'imagine, si on se rend là.
Particulièrement,
oui. Ça serait comme intraveineux. Là.
Mais il y a aussi d'autres sous-populations, tu sais, comme les femmes enceintes ne peuvent pas prendre de molécules orales, comme le Coumadin, okay. puis le Xarelto et autres. Donc, eux... Elle n'aurait pas le choix que ce soit l'héparine.
Ouais. OK. Ah, je ne savais pas que les femmes enceintes ne pouvaient pas prendre ces médicaments.
Ben, c'est que ça n'a jamais été étudié. Tu sais.
Ah!
C'est ça.
On ne veut pas que ça devienne des sujets d'études. Les femmes
c'est en... un peu... ça peut être difficile un peu, ce sujet-là.
Éthiquement parlant.
Exact.
Donc, oui.
Puis, donc, c'est ça. Fait que si on revient à ces médicaments-là, en fait, c'est que ce sont tous, comme j'ai dit, des anticoagulants. Donc, leur rôle, ça va être de... On dit souvent liquidifier le sang. Là. Évidemment, ça ne le liquidie pas pour vrai. Là. Ça ne le rend pas plus liquide à l'intérieur de tes veines. C'est juste que ça l'empêche de cailler, de faire un caillou.
C'est quand même bien. Oui.
Ouais. Donc, une personne qui a beaucoup de chances de former un caillou ou de faire une thrombose ou qui en a déjà fait une, c'est évident que ça a des bénéfices à prescrire ce médicament-là. Mais il y a aussi des risques à ces molécules-là. Donc, vu qu'il empêche la formation d'un caillou, bien évidemment, lorsqu'on se fait mal dans la vie de tous les jours, il n'y aura pas plus de caillous qui va se former. Donc,
ben ouais.
Ça peut occasionner des saignements internes, mais externes aussi, c'est comme des écoulements de nez, beaucoup d'ecchymoses, mais aussi des maladies plus sérieuses comme des
hémorragies. Là.
Exact, des AVC ou des saignements intestinaux. Donc, évidemment, on essaie de se tenir loin de ces effets secondaires-là. Là.
En effet. Mais... C'est pour ça que le dosage est bien important.
Exactement.
Aussi, hein?
Le dosage est extrêmement important dans avec ces molécules-là. Puis d'ailleurs, si on peut faire une petite parenthèse, je pense qu'on a le temps. Là.
Bon.
Je pense que c'est quand même intéressant de savoir la découverte du Coumadin, comment elle a été faite, ou de la warfarine, en fait. Là, parce
ben oui.
que je pense que ça ramène un principe de pharmacologie qui est très intéressant. Là. Donc, en fait, la warfarine, quand elle a été développée à partir d'une molécule naturelle, c'était dans les années 1948, je pense, si je ne me trompe pas.
L'année des grandes découvertes.
Oui. Puis elle avait été découverte, dans le fond, puis elle avait été commercialisée à l'époque comme poison à rats.
Ah!
Donc, pour éliminer les rongeurs.
Les gens à la maison, vous êtes contents de ne pas être des rongeurs, finalement.
Exact.
Oui.
Puis c'est seulement quelques années plus tard, 5 ou 6 ans, que là, ça a été amené chez l'humain pour être utilisé comme traitement, comme un anticoagulant. Évidemment, comme on dit en pharmacologie, c'est la dose qui fait le poison. Donc, chez l'humain, on donne des doses qui ne sont pas toxiques.
Idéalement, oui.
Très important. Mais je pense que c'est important de se rappeler un peu d'où ça vient et que les effets secondaires qu'on observe avec ces molécules-là ne viennent pas de nulle part. Là. Donc,
parce que c'est un poison.
Bien, elle vient directement de leur effet principal qui est d'empêcher la coagulation.
Oui. Donc, c'est ça. C'est comme l'autre côté de la médaille qui est moins souhaitable, mais c'est comme ça avec tout médicament.
Exactement.
Malheureusement.
Exactement. Ouais. Mais nous, dans le fond, dans mon projet, ce qu'on s'est demandé, c'est qu'il n'y aurait pas moyen de contourner ce système-là pour développer une nouvelle approche thérapeutique potentielle qui ne toucherait pas justement à la coagulation des patients.
OK.
Donc, on s'est intéressé, nous, au laboratoire, ça fait déjà plusieurs années, là, avant même que j'arrive dans le laboratoire, on s'intéressait à la chymase, qui est une toute petite protéine qui se retrouve dans le système immunitaire en général, aussi dans le système cardiovasculaire, là, mais elle se retrouve dans des cellules du système immunitaire. Puis, comme Pedro disait, c'est une molécule qui est à l'extérieur des vaisseaux.
Ouais.
Puis, nous, dans le fond, ce qu'on a découvert dans l'article qu'on a publié, c'est que cette protéine-là avait les capacités de rentrer, d'infiltrer les caillots lors d'une thrombose veineuse profonde.
OK.
Et d'inhiber une autre enzyme d'intérêt à l'intérieur qui, normalement, éliminerait le thrombus. Okay. Ou le caillot. Donc, cette enzyme-là, elle s'appelle la plasmine.
Okay.
Puis ça, c'est vraiment l'enzyme, si elle est inhibée, alors on ne pourra jamais éliminer le caillot. C'est vraiment une enzyme essentielle pour l'élimination. Donc, ce qu'on a découvert, on a utilisé un inhibiteur de la chymase, donc une molécule qui va empêcher son action. Puis, on a permis, en fait, en inhibant la chymase, d'éliminer les thrombies qui étaient déjà présents dans nos modèles expérimentaux.
OK, parce que là, je fais juste... Dans le fond, la chymase vient activer la plasmine ou désactiver?
Elle vient l'inhiber.
L'inhiber, donc désactiver. Fait que là, si la chymase, elle rentre dans le caillot, elle vient inhiber la plasmine, ce qui empêche l'élimination du caillot.
Exactement.
Donc, en empêchant la chymase en premier lieu d'entrer dans le caillot, on laisse la plasmine faire sa job. Finalement.
Exactement.
OK, je comprends.
Donc, exactement.
J'ai fait un petit résumé pour les auditeurs.
C'est parfait. C'est parfait.
Parfait.
Donc, finalement, c'est vraiment... C'est franchement intelligent, ça, de décider que... Puis tu parlais du système immunitaire avec la chymase. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les antihistaminiques, l'histamine aussi, a un lien avec la chymase, hein, je pense.
Pedro, veux-tu répondre à l'histamine?
C'est là où tout le nœud gordien, hein, qu'on a essayé de trancher, c'est que la chymase est libérée de cellules qui sont impliquées dans la première réponse à un allergène. Par exemple, on se fait piquer par une abeille, tu sais, la grosse bosse, là.
Si on en trouve, là, parce qu'ils sont rares ces temps-ci, mais oui.
Une guêpe, même affaire. Une tique, même affaire.
Oh, OK.
Sans exception.
Toutes
mais dans la mesure où il y a des agents pathogènes qui rentrent en circulation, alors les mastocytes sont les premières cellules qui arrivent autour, là, puis disent, ah, ben, on va essayer de créer une barrière, empêcher que ces toxines rentrent dans le sang.
OK.
Donc, c'est des cellules qui sont à l'extérieur, mais qui se collent aux vaisseaux sanguins dans le processus inflammatoire. Et c'est pour ça que la chymase, on en retrouve dans un thrombus, mais pas dans un caillot physiologique.
Okay.
Un caillot, c'est une chose, c'est une réaction physiologique normale. Par exemple, on a une coupure, Mais quand le processus inflammatoire, ça devient un caillot qui est difficile à dissoudre.
Le thrombus.
Ça devient un thrombus, exactement.
Dans la thrombose veineuse profonde.
Exactement.
Okay.
Et c'est pour ça que ce qu'on a découvert, c'est que c'est une protéine qui était libérée de ces cellules. Interférer avec les capacités de l'enzyme qui dégrade le thrombus de faire son travail.
OK.
Puis donc, c'est ça que Catherine a découvert. Ben, si je suis un inhibiteur, comme par hasard, par magie, mes thrombies disparaissent sans affecter la coagulation normale.
Donc, dans le cas où est-ce que la molécule sur laquelle vous travaillez serait éventuellement sur le marché, ça permettrait carrément de renverser un caillot.
C'est ce qu'on espère.
C'est ce qu'on espère.
C'est ce qu'on espère.
Parce que les autres médicaments actuellement sur le marché, il faut les prendre au long cours, je pense, pendant 6 mois,
tout
3 mois,
fait.
6 mois, pour tranquillement possible, tranquillement pas vite, faire passer le thrombus.
Ou prévenir.
Ou la reformation, c'est ça.
Exact.
Tandis que vous, ça permettrait, poup!
D'ailleurs, dans le modèle expérimental, encore une fois, c'est important pour votre auditoire, Véronique, que ce sont des modèles expérimentaux non validés en clinique, mais c'est un modèle qui reproduit la pathologie. Le but ici, c'est pas de dire c'est la panacée. Le but, c'est qu'on a des évidences scientifiques démontrant que.
Oui.
Et dans ce contexte-là, l'étude de Catherine et les collaborateurs ont aussi montré qu'on peut renverser un thrombus. C'est déjà montré dans la publication.
OK, wow!
Qui est déjà mature. Donc, une fois que le thrombus est mature et solide, l'inhibiteur qu'on a utilisé renverse le thrombus.
Wow.
Alors ça, c'est très particulier.
Dans un modèle expérimental,
Dans un modèle expérimental.
Mais ça a été démontré, là. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Puis je pense que vous allez continuer à travailler un petit peu sur ce modèle-là expérimental qui pourrait vraiment être intéressant éventuellement. On parle dans un futur lointain, là, toujours, mais qui pourrait être intéressant pour les gens qui... Parce que c'est quand même très commun. On parle post-opératoire. Des fois, il y a des caillots qui se forment chez les patients, là, après l'opération, malheureusement. C'est des conditions qui sont quand même fréquentes. Là, donc, ça serait vraiment... c'est un sujet très intéressant.
Hein. Mm-hmm. Mais tu vois, Véronique, peut-être pour terminer sur ce point, moi, on essaie toujours d'avoir un volet translationnel dans nos études précliniques.
Ouais.
C'était un modèle expérimental. On se pose toujours la question, mais est-ce qu'on trouve la même chose chez l'homme?
Ouais.
Puis dans l'étude de Catherine, on s'est montré que cette chymase était présente dans des thrombies humains.
Oh, OK. Oui.
Puis bon, mais évidemment, on veut juste dire, l'enzyme est là. La prochaine étude, éventuellement, va montrer que...
va montrer que dans un environnement humain, chez l'homme...
C'est ce qu'on espère.
On renverse. C'est ça, c'est l'espoir. Puis ça nous amène, parce qu'on est déjà, Colin, à 10h30, donc ça nous amène à notre dernière question, qui est justement une question qui vise à donner de l'espoir un peu par rapport à la thématique cardiovasculaire, mm-hmm. puis voir peut-être... Pedro, ça va être une question en deux volets, parce que toi, ben, ta carrière, déjà, ça fait déjà 35 ans, tu l'as nommé en début de rencontre. Qu'est-ce que pour toi est ton leg dont tu es le plus fier de toutes tes recherches, par exemple, si tu avais à me nommer?
Ma plus grande satisfaction, d'un point de vue académique, c'est de voir des étudiants qui prennent relève. C'est l'augmentation de la masse critique dans notre domaine, pour moi, c'est absolument fondamental, parce que c'est un peu comme nos étudiants gradués, c'est un peu comme nos enfants. On veut leur bien, on veut qu'ils développent, mais on veut qu'ils soient meilleurs que nous, éventuellement. C'est ce que j'espère.
C'est l'objectif.
Ah, c'est clair. Pour moi, c'est ma plus grande fierté, c'est tous mes étudiants qui ont terminé leur doctorat.
Qui vont suivre, puis que tu as pu être leur mentor, puis qui vont conserver une partie de toi dans leur travail futur. Mm. Puis si je te posais un deuxième volet, la question, pour la thématique cardiovasculaire, toi, qu'est-ce que tu crois qui serait intéressant dans les prochaines années de réussir à faire, tu sais, pour améliorer cette thématique de recherche-là, puis ben, en fait, le pronostic dans ces maladies-là?
Contrairement à d'autres disciplines, la recherche en cardiovasculaire... a déjà généré des progrès très, très importants. On a réduit de façon majeure les taux de mortalité, de morbidité associés aux maladies cardiovasculaires depuis 50 ans mm-hmm. à cause de la dynamique de l'évolution scientifique dans notre domaine. Et qui est probablement... Et donc, aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est trouver des façons d'améliorer l'état de santé général du patient.
OK.
On parle de prévention ou on parle, par exemple, d'approche thérapeutique plus efficace, avec moins d'effets secondaires. Et nous, on travaille beaucoup. En tout cas, moi, dans le laboratoire, on a toujours travaillé dans cet angle-là, surtout avec les inhibiteurs de la chymase.
Mais c'est vrai que la prévention en termes de maladies cardiovasculaires, c'est fondamental parce qu'une fois qu'on est bouché, comme on disait tantôt, qu'on a vraiment des problèmes au niveau artériel ou veineux, c'est plus difficile à renverser après.
On est toujours à risque.
Puis... On essaie aussi d'avoir un volet translationnel d'application plus rapide. Pour ça, on a eu le privilège de s'associer à la compagnie Bayer en Allemagne, qui nous aide beaucoup dans le développement de ce principe-là.
Ouais.
Et ils sont avec nous depuis 3 ans et puis nous ont beaucoup aidés. Puis on espère que ça va...
Que cette collaboration-là va perdurer dans le temps.
Tout à fait, avoir un impact.
Parce que c'est sûr que pour vous, puis je le dis souvent dans les émissions, c'est très, très important d'avoir des partenaires au privé parce que académiquement, on a une grande liberté, mais la liberté au niveau financement avec les entreprises privées à haut impact, c'est vraiment important pour pouvoir faire lever nos découvertes, si on veut. Donc,
tout à fait. Puis pour ceux et celles dans l'auditoire qui se demandent qui est la compagnie Bayer, ben, si vous avez pris une aspirine dans votre vie, ben, Bayer, c'est ça.
Bravo, Bayer. Merci, Bayer. On les remercie beaucoup parce que l'aspirine est vraiment, on ne peut pas s'en passer quand on a un bon mal de tête. Catherine, pour toi, on va terminer avec ça. On a dépassé un petit peu notre temps, mais je te laisse quand même le temps d'y répondre. Pour toi, en tant qu'étudiante, la relève, Pedro vient de dire, c'est quoi, toi, que tu aimerais accomplir dans ta carrière en cardio?
Dans ma carrière spécifique, donc pas qu'est-ce que j'espère pour la cardiologie.
Aussi, les deux, en fait.
Bon, oui. OK. Mais c'est sûr que le rêve, je pense, de tout chercheur, c'est que nos découvertes arrivent chez le patient éventuellement. Là.
Ouais.
Donc, je crois que la réponse facile, de mon côté, ça serait vraiment que les découvertes qu'on a faites pendant mon doctorat puissent éventuellement se mener aux humains.
Cette fameuse découverte. Cette fameuse découverte-là, que cette molécule-là soit disponible éventuellement.
Exact. Ouais. Donc, c'est sûr que ce serait ça... l'espoir dans tout ça, mais peut-être au niveau de la cardio ou par rapport à mon sujet, qu'est-ce que je crois qui devrait être plus développé un peu, c'est peut-être, comme j'ai mentionné un peu au début, il y a beaucoup de sous-populations qui peuvent pas être bien traitées.
Mmh,
parce que soit que c'est pas étudié, soit que pour plein d'autres raisons. Donc, je pense que ça serait quand même pertinent de développer des meilleures approches pour ces patients-là puis de mieux étudier, de trouver des façons d'étudier ces phénomènes-là pour pouvoir mieux les traiter.
Non, mais moi, je trouve ça bien. Ça fait très diversité-inclusion 2023. T'es dans le vent, Catherine. T'es dans le vent. Donc, c'est déjà la fin. J'aurais parlé avec vous toute la journée. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est la fin de notre quatrième épisode. Je vais prendre le temps de vous remercier de vous être déplacé, de vous être engagé. À l'IPS, on sait, l'engagement, c'est bien important. Donc, merci d'être toujours au rendez-vous puis d'accepter les invitations. C'est toujours un plaisir d'avoir des collègues en studio, des gens que j'apprécie beaucoup. Alors, c'est déjà tout. On va avoir un cinquième épisode épisode, chers auditeurs, en juin. Ensuite, on va prendre une petite pause pour l'été, juillet, août, pour se ressourcer, puis on va être de retour à l'automne. Alors, merci à tous, puis je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci beaucoup, à toi, Véronique. Merci à l'auditoire de nous avoir écoutés aujourd'hui.
Oui, merci.